Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons continuer et c'est la dernière partie que nous allons aborder dans le monde invisible. C'est une longue série que je vous ai faite. Parce que je veux que vous ayez l'intelligence du monde invisible. Parce que la parole de Dieu nous révèle tellement de choses sur ce sujet. Et on s'aperçoit que tellement de chrétiens croient des choses qui ne sont pas scripturaires. Prient des choses qui ne sont pas scripturaires. Pensent des choses qui ne sont pas scripturaires. Et ceci est dommage. Parce que plus vous pensez que des choses sont de Dieu et elles ne sont pas de Dieu. Plus vous vous trompez vous-même. C'est pourquoi Dieu veut que nous ayons de l'intelligence. L'intelligence de Dieu. La compréhension de ce que Dieu a créé dans le monde invisible. Les influences invisibles vers le monde visible. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Et nous avons remarqué que Dieu a créé d'abord l'invisible et ensuite le visible. Nous avons vu que c'est à partir de l'invisible que Dieu crée le visible. Parce qu'il n'y avait rien. Au commencement, Dieu, c'est tout. Et Dieu a commencé à créer le monde invisible. Et ensuite, il a créé le monde visible. Mais Dieu est invisible. Et tout vient de lui. Tout procède de lui. Il est la source de toutes choses. Et c'est pourquoi nous qui avons notre corps mortel, où nous n'avons qu'accès pour l'instant avec nos yeux de chair que dans le monde visible, nous ne voyons que le monde visible aujourd'hui. Ce monde invisible qui nous est voilé à nos yeux nous est révélé dans la parole. Et c'est pourquoi vous devez plonger vos regards dans la parole de Dieu afin de savoir de quoi vous parlez. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils parlent de vie éternelle, ils parlent de Dieu. Il parle du ciel. Et quand on leur dit oui, mais c'est comment? Ben, ils ne savent pas. Alors que la Bible nous révèle plein de choses là-dessus. C'est pourquoi nous avons vu toutes ces révélations qui nous sont données en comparant les visions de l'Ancien et du Nouveau Testament sur le trône de Dieu. Nous avons vu vraiment ces choses extraordinaires qui nous sont révélées. Et nous avons scrupuleusement étudié ces visions. Et bien évidemment, dans le Nouveau Testament, nous nous sommes aperçus que nous avons plus de révélations, c'est normal. Donc nous avons vu qu'il y a le trône de Dieu. Dieu est assis sur un trône. Et nous avons vu qu'il y a un arc-en-ciel autour du trône. Et il y a aussi des créatures extraordinaires angéliques. Des chérubins et des séraphins qui sont là pour garder l'intégrité du trône de Dieu. Mais nous avons vu aussi que dans les visions du Nouveau Testament, ce qui n'était pas le cas dans celle de l'Ancien, qu'il y a des gens au troisième ciel, et nous avons défini les trois cieux, je vous le rappelle. Et au troisième ciel, nous avons vu dans les visions du Nouveau Testament, il y a 24 anciens autour du trône. Nous avons défini et nous avons essayer de trouver qui étaient ces 24 anciens. Ensuite, nous avons vu aussi la Jérusalem céleste, ce qu'il y a dedans. Ces routes pavées d'or, les maisons,
amazu,
etc., etc. C'est là où nous allons d'ailleurs. Le jour où tu quitteras ton corps, c'est là où tu vas.
Bien sûr,
si tu es né de nouveau, que tu appartiens au royaume de Dieu. Ensuite, nous nous sommes posé la question à propos des créatures angéliques.
Et
je vous ai montré que les anges
sont
esprit et âme.
Ils
ont une personnalité, mais ce sont des êtres spirituels.
Je
vous ai montré qu'il y a un tiers des anges qui a chuté, qui a suivi le diable. Je vous ai montré que c'était un chérubin. Et en fait, Satan étant un chérubin, il a chuté, il a péché contre Dieu, il a voulu prendre la place de Dieu. Je vous ai expliqué tout cela. Et je vous ai montré aussi que parmi les anges, il y a des catégories, il y a des hiérarchies. Un des noms de Dieu, Yahweh Sabaoth. Et ça veut dire l'éternel des armées angéliques. Et nous avons vu que les anges et les archanges servent le troisième ciel. Mais on s'est posé des questions, qu'y a-t-il au niveau du monde invisible dans le premier et le deuxième ciel? Et c'est là où on a découvert évidemment qu'il y a un certain nombre d'esprits maléfiques qui s'appellent les démons. On a vu que la terre a été soumise, la gestion de la terre a été donnée au diable. Et qu'évidemment, on voit que dans ce monde, il y a des influences. Et nous avons découvert différents types d'influences. Les influences sataniques, les influences de la chair. Mais aussi, on a vu que nous, étant nés de nouveau, nous avons vu qu'il y a des principes divins qui nous permettent, au milieu de ce monde, dont Satan est le prince de ce siècle, des systèmes de ce monde, nous devons apprendre à régner puisque nous sommes des ambassadeurs du royaume sur la terre. Et c'est là où tu dois apprendre, et je vais vous expliquer comment laisser la puissance de Dieu, la présence de Dieu, la parole de Dieu, l'autorité que vous avez dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout cela, ça vous donne de pouvoir être influent. Laissez l'influence du royaume de Dieu sur la terre. Puis je vous ai expliqué aussi quelque chose de très important à propos des positions d'autorité. Je vous rappelle d'une chose, les chrétiens ont laissé toutes les finances et toutes les positions d'autorité sous le prétexte qu'on n'avait rien à faire dans ce monde et qu'on attendait le ciel. Ils ont tout laissé aux païens. Et ils se plaignent après qu'ils sont dominés sur la terre. Et je vous ai clairement montré que si vous voulez influencer divinement l'environnement dans les nations, il faut fermer des portes au diable. C'est pourquoi je vous encouragerai toujours à aller le plus haut possible, non pas pour vous-même, par contre à exercer un leadership avec un caractère divin, mais aller toujours le plus haut possible. Nous avons vu dans les systèmes de direction des nations, nous avons vu dans les sociétés, dans le business, nous avons vu dans le domaine du social, partout soyez influents au maximum parce que Dieu nous appelle à être influents. Je vous rappelle que ce n'est pas Dieu directement qui met les gens en autorité. Nous avons suffisamment étudié ce passage, particulièrement de Romains 13. Je vous le rappelle, je vous l'ai décortiqué la dernière fois. Et je vous ai montré très largement là où il faut faire attention. Alors, nous avons donc étudié le monde invisible, donc du troisième ciel. Nous avons aussi étudié donc le monde invisible sur la terre. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et c'est là où nous allons nous poser certaines questions. Et c'est là où nous allons trouver un certain nombre de réponses. À propos d'un monde invisible, on va trouver ça dans Éphésiens chapitre 4. Et je vais vous montrer ce matin le monde invisible qui se trouve au centre de la terre.
Ici, itaboneka iri indani musi ikuzimu.
Et là, il va falloir que vous compreniez un certain nombre de choses.
Aronda saba ko muzagutega amatwi mwumvirize ibintu bimwe na bimwe.
Parce que nous avons clairement vu que ceux qui sont sauvés et qui meurent en Christ
yuko abakizwa bagapfa
vont auprès du Seigneur.
Bagenda ku mwami.
Maintenant, ceux qui ne sont pas sauvés, ils ne vont pas auprès du Seigneur. Mais ils descendent. Ils descendent dans l'abîme, comme nous allons le découvrir. On va regarder. Alors, il faut que tu fasses attention dans les interprétations, parce que c'est pas, je sais que c'est pas très facile. Mais la Bible va nous montrer et nous révéler un certain nombre de choses. Je vais aussi, bien sûr, détruire ce que souvent les chrétiens pensent à propos de la sorcellerie, et je vais vous montrer le mensonge, un des plus gros mensonges de la sorcellerie. Afin que vous puissiez croire ce que la Bible dit, et non pas croire peut-être certaines expériences que vous avez entendues ou que vous avez cru faire. Parce que nous devons fonder notre foi sur la parole de Dieu, non pas sur des choses qu'on peut croire ou qu'on peut entendre. Tout ce que tu entends, même si quelqu'un se dit serviteur de Dieu, tu dois l'amener à la lumière de l'Écriture. Et tu dois suffisamment connaître la parole pour pouvoir dire oui, c'est correctement interprété, ou de dire non, ce n'est pas correctement interprété. Parce que quand tu crois des choses qui sont fausses, parce que simplement tu penses que c'est comme ça ou tu as toujours cru que c'était ça,
et bien
ça peut être du poison pour ta vie spirituelle. Alors la Bible va nous parler de quelque chose qui est assez étonnant. Il est dit à partir du verset 7 d'Éphésiens
4,
et on va lire ensemble donc, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Verset 8, regardez, c'est pourquoi il est dit étant monté en haut, c'est-à-dire dans le ciel, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Verset 9. Or, que signifie il, c'est Jésus, est monté, c'est-à-dire monté au ciel, sinon aussi qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Verset 10, s'il vous plaît. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses.
Tugeregwa ingabire ya Kristo nico gituma ivuga iti yaraduze ajiyo hejuru ajanye iminyago agabira abantu ingabire ariko iryo jambo ngo yaraduze niki mbega ntigerekana yuko yabanje kumanuka ikuzimu uwo yamanutse niwe yaduze aja hejuru y'amajuru kugira y'amajuru yose kugira ngo anengesere byose.
Ici, la Bible nous dit que Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre.
Abiritwereka ko Yesu ngo yamanutse ikuzimu,
les régions inférieures de la terre. Nous allons regarder Romains 10 en parallèle.
Romains
chapitre 10, verset 7. On va lire peut-être un peu plus haut. Romains 10, verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi, c'est-à-dire le message. Voici quel est le message qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Qui descendra dans l'abîme? Regardez bien ce mot abîme ici.
Tu peux peut-être lire ça, qu'on dit.
Ngo ariko kugoroka kuva ku kwizera kuvuga gutya ngo ntiwibaze uti ninda zoduga ngo aje mwijuru risobanurwa ngo kumanukana Kristo cyangwa uti ninda zomanuka ikuzimu urabe naziri jambo ikuzimu bakoresha ngaha.
C'est en faire remonter Christ d'entre les morts, verset 8. Que dit donc? Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. On va lire juste le verset 9 qui est très connu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, etc., etc. Le message du salut.
Alors,
qu'est-ce qu'on peut voir ici ? On peut voir que Jésus, dans Éphésiens 4, vous vous rappelez, est déçu dans les régions inférieures de la terre.
C'est
pas facile, mais il faut que tu traduises littéralement. Et on voit ici que dans Romains 7, il nous est dit quoi ? Il nous dit « Qui descendra dans l'abîme, c'est en fait remonter Christ d'entre les morts. » Jésus est descendu dans l'abîme. Alors je sais que là vous avez les deux mots ikuzimu là, mais ce n'est pas comme ça que littéralement le grec nous dit. Le grec nous dit bien dans Éphésiens 4 qu'il est descendu, traduit littéralement ce que je dis, dans les régions inférieures de la terre. Romains 10 verset 7, nous l'avons vu. Jésus est descendu où ça ? Dans l'abîme. Alors, on voit que Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, son esprit et son âme, rappelez-vous que la mort physique, c'est la séparation de l'esprit et de l'âme par rapport au corps. Le corps de Jésus était à la croix quand il va mourir, cloué à la croix, mais son esprit et son âme sont partis. Et la Bible nous dit clairement où ça ? Dans l'abîme. L'abîme. Maintenant, je vais vous montrer un autre verset. Dans la parole de Dieu, on va lire Luc chapitre 8, où on va retrouver ce mot abîme. Je vais vous montrer ce que ça veut dire, le terme grec exactement. Luc chapitre 8, au verset 31. On va lire un petit peu plus haut. Voilà, au verset 28, c'est Jésus qui va libérer un démoniaque. Le possédé de Gadara. Il est dit, Luc 8, verset 28, ayant vu Jésus, donc, le démoniaque s'approche de Jésus pour être libéré. Cet homme était fou, il était possédé de démons. Mais il voulait être délivré. Il s'approche du Seigneur. Et au moment où il s'approche du Seigneur, bien sûr, les démons vont se manifester. Il est dit, ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus ?» Fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Verset 29. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds. Mais il rompait les liens. Il était entraîné par le démon dans les déserts. Verset 30. Jésus lui demandait, quel est ton nom ? Légion, répondit-il. Car plusieurs démons étaient entrés en lui. Regardez bien verset 31. Il, c'est les démons, bien sûr. Il suppliait littéralement, instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller où ça ? Dans l'abîme. Verset
31. Kandi harumukuku canke ubusho bw'ingurube nyinshi zirisha kuri uwo musozi baramwinga ngo abemerere kuzinjiramwo arabemerera.
Donc qu'est-ce que la Bible nous montre?
Ariho bibiri twereka iki?
C'est que ce mot abîme,
iri jambo ikuzimu bakoresha,
eh bien, il peut y avoir des hommes dedans,
des hommes,
et aussi des démons. C'est une expression que la Bible utilise, qui parle du monde invisible, qui est au centre de la terre, où il y a des gens, c'est-à-dire des esprits et des âmes de personnes qui ne connaissent pas Jésus, comme nous le verrons, mais aussi des esprits mauvais. Donc, c'est une expression que la Bible a utilisée qui a été traduite par le mot « abîme » en français. Et en fait, ce mot-là veut dire un endroit profond. C'est le mot grec « abyssos ».
Abyssos,
qui veut dire vraiment donc un endroit extrêmement profond. Alors, quand on fait une étude là-dessus, on va s'apercevoir que cette expression, l'abîme, cette prison d'esprit, parce qu'en fait, l'abîme, si vous faites une étude sur ce mot-là, dans la Bible, vous verrez que cette expression générale, c'est une prison d'abord, une prison d'esprit. C'est une prison d'esprit qui finalement, comme nous allons voir, a deux grandes parties. Une partie pour les êtres humains qui partent sans connaître Jésus, mais aussi une partie où il y a des démons qui sont en prison. Je vais vous montrer ces choses. Je sais que pour vous, certains d'entre vous, c'est quelque chose de tout nouveau. Mais la Bible est très claire là-dessus. Il va falloir que vous compreniez comment est constitué cet abîme.
Donc,
cette expression est une expression générale qui est une prison d'esprit qui est au centre de la terre qui a deux grandes parties. Une partie pour les hommes qui partent sans Jésus et une partie où il y a des démons qui ont été capturés, des mauvais esprits qui ont été capturés. Et ça, il va falloir que vous le compreniez. Et on va voir ce passage de 2 Pierre, chapitre 2. Et on va trouver ici, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, quelque chose que Pierre va nous révéler par le Saint-Esprit. Je vous en avais déjà parlé, mais là nous allons voir plus précisément. Parce que la Bible nous révèle des choses sur ce monde invisible et vous devez en avoir l'intelligence. Pierre va nous révéler ce qui s'est passé il y a très longtemps pendant la chute du diable. Regardez bien ici, et dit, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans l'abîme des ténèbres et les réserve pour le jour du jugement.
Ngo kuko kw'Imana itagiriye ikigongwe abamarayika bakoze ibyaha ariko ikabakororera ikuzimu ikabashira mu byobo by'umwiza ngo barindigwe kuzocigwa kwiteka.
Décidément, Kirundi, il n'y a qu'un seul mot pour tout. Mais dans la Bible, il n'y a pas un seul mot pour tout. Ici, il nous est parlé de quoi? Ce passage nous montre qu'il y a des anges qui ont péché, nous le savons. Rappelez-vous de cette histoire que nous avons étudiée. Lorsque Dieu a créé le monde invisible, toute l'armée angélique, les chérubins, les séraphins, les archanges, les anges, ils le servaient tous. Ils l'ont servi pendant longtemps. Mais nous savons, nous l'avons étudié précédemment, dans Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel 28, nous avions vu ces passages-là, en mettant en parallèle Apocalypse chapitre 12, nous savons que Satan, donc ce chérubin, s'est rebellé contre Dieu il y a extrêmement longtemps, bien avant que Dieu crée l'homme. Il y a certainement des millions voire des milliards d'années, nous ne savons pas exactement. Il s'est rebellé et nous savons qu'il a pris un tiers des anges avec lui. C'est ce que Apocalypse 12 nous montre, et les commentateurs bibliques sont relativement d'accord sur cette interprétation. révélation. Et en fait, ce tiers des anges, je vous avais expliqué qu'une partie sont en action au premier et au deuxième ciel. Mais je vous avais dit, et maintenant je vous le prouve par l'écriture, que parmi ce tiers des anges qui ont péché, qui se sont rebellés contre Dieu, eh bien, il y en a une partie qui ont été capturés et qui sont dans un endroit, qui sont, ici c'est traduit par les abîmes des ténèbres, littéralement. Rappelez-vous ce que le démon du possédé de Gadara va dire. Il suppliait Jésus, vous vous rappelez dans Luc, que Jésus ne l'envoie pas dans l'abîme, dans Abyssos. Parce que les démons savent très bien qu'ils ont pas mal de leurs petits copains qui sont dans l'abîme en captivité. Ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils disaient ça à Jésus. C'est pour ça que ça nous est rapporté dans l'Écriture. Et on voit ici, dans 2 Pierre, s'il vous plaît, remettez 2 Pierre, que ici, ils ont été précipités dans les abîmes des ténèbres. Et en fait, c'est la partie de prison d'esprit. Il est bien dit ici qu'il les a précipités et les réserve pour le jugement.
Donc,
ils sont bloqués. Ils sont en prison. Et vous voyez ce qui a été traduit en français, les abîmes des ténèbres, c'est un seul mot en grec. C'est le mot Tartaros. Tartaros, c'est la seule fois où c'est utilisé dans le Nouveau Testament. Et ce mot
Tartaros
montre clairement que c'est une prison. Une prison d'esprit de ces anges qui ont péché à l'époque de la chute du diable, qu'une partie ont été capturées, et cette partie qui a été capturée, eh bien, est dans l'abîme, dans cette partie où il y a les mauvais esprits. Alors, ça, c'est une partie de l'abîme, Abyssos. Nous savons qu'il y a des mauvais esprits dans une prison d'esprit qui s'appelle le Tartaros. Maintenant, quand nous étudions la parole et que nous faisons des recherches, nous avons vu que dans Romains chapitre 10 et Éphésiens 4, que Jésus va aller au centre de la terre, entre guillemets, au plus profond de la terre, et il va dans l'abîme. Il a été dans l'abîme. Mais là, nous allons avoir une précision dans Actes chapitre 2, verset 27. Lorsque Jésus meurt, la Bible va nous dire, dans Actes 2, 27, et si vous lisez le contexte d'Actes 2, c'est Pierre qui prêche son premier sermon. Il prêche Jésus-Christ crucifié. Jésus qui meurt, qui a été mis à mort par les Juifs, que c'était l'œuvre de Dieu. Verset 24, il est dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'elle soit retenue par elle,
2:24.
Et verset 27, c'est ça qui m'intéresse là. Il est dit, car tu n'abandonneras pas mon âme, dans quoi le séjour des morts. Le séjour des morts. Très souvent, vous allez retrouver cette expression dans l'Ancien Testament. Le séjour des morts. Vous allez la trouver dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Mais il va y avoir une grande différence entre les deux. Dans l'Ancien Testament, ceux qui mouraient, qui servaient Dieu, disaient toujours qu'ils allaient dans le séjour des morts. Le séjour des morts.
Il va
vraiment falloir retraduire la Bible en Kirundi. Parce que là, pour interpréter, c'est difficile. Hein. C'est pour ça que j'essaie de vous l'expliquer d'une façon simple. Donc on sait que Jésus a été dans le séjour des morts. Jésus va donner une parabole très intéressante dans Luc chapitre 16. Et je vais vous expliquer cette parabole parce qu'elle va encore nous éclairer sur le monde invisible. Je vous ai dit, il y a beaucoup de passages qui nous parlent à partir du verset 19, Luc chapitre 16, qui nous parlent du monde invisible. C'est important de savoir. Quand vous évangélisez, vous devez parler du monde invisible. Vous allez dire à la personne, tu vois, si tu meurs dans tes péchés comme ça, tu vas aller en enfer. C'est un endroit de souffrance. Mais tu vois, si tu reçois Jésus, que tu nais de nouveau, alors quand tu meurs physiquement, eh bien ton esprit, ton âme, ta nature à l'intérieur, partent auprès du Seigneur. Mais c'est important d'être bien au point d'être, de savoir, d'avoir la connaissance. Ce qui vous permettra d'évangéliser beaucoup plus efficacement. Parce que vous savez, les gens vous posent des questions. Et si vous ne savez pas répondre aux questions quand vous évangélisez, ou que vous répondez des choses qui sont fausses, il
n'y
a pas de puissance en dehors de la vérité. Quand vous transmettez la vérité, il y a de la puissance. Parce que ce n'est pas votre parole. C'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est elle qui amène la vie, qui amène la conviction de péché chez lui, et qui amène les gens à la repentance. La Bible nous dit au verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient sur la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Remarquez bien cette expression. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Verset 24, il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. » Là, on verra que le mot « abîme » est très mal traduit. Nous verrons que c'est un grand fossé. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Verset 27, il dit, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même quand quelqu'un des morts ressusciterait. Alors ici, je vais vous expliquer plusieurs choses. Parce que ce texte a porté à confusion quand certaines personnes interprètent et qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances sur le monde invisible. D'abord, la première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est ce qu'on appelle une parabole. Jésus a donné un certain nombre de paroles, a parlé en paraboles. Une parabole, c'est souvent une histoire qu'on va raconter qui illustre une vérité. Ce n'est pas quelque chose, vous savez, où vous pouvez prendre le moindre détail et donner des interprétations sur chaque mot. Là, ici, Jésus voulait insister sur quelque chose d'important. Sur la mort physique. Et aussi, il nous montre deux endroits différents. Ce que Jésus nommera le sein d'Abraham, qui a toute une image derrière. Et bien sûr, il va nous parler d'un endroit de souffrance. Cette parabole ne dit pas que tous les riches iront en enfer et tous les pauvres iront au ciel.
Qu'on
soit bien d'accord. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent interpréter ça littéralement et c'est faux. C'est pas l'objectif de cette parabole. La richesse et pauvreté, c'est par rapport au monde spirituel, bien évidemment. Et on voit très bien, il y en a un qui croit. Un qui fait partie des fils d'Abraham, qui va dans le sein d'Abraham, cette image. Abraham, dans la parole de Dieu, c'est le père des croyants. Abraham, c'est celui qui nous a montré le chemin de la justification par la foi. Abraham,
c'est celui qui nous a montré le chemin de la justification par la foi.
Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Il est repris dans le Nouveau Testament. Comme l'exemple de celui qui a marché par la foi. À savoir qu'il a entendu la parole de Dieu et il a marché selon la parole de Dieu. Et il a vu ses promesses s'accomplir parce qu'il a cru la parole contrairement à ses circonstances. Et quand on enseigne sur la foi, on enseigne toujours sur comment Abraham a agi dans la foi. Et Abraham est appelé le père des croyants. C'est au travers de la semence d'Abraham que le peuple juif est né. Mais qu'au travers du peuple juif, Dieu le Fils a pu s'incarner, c'est-à-dire que le Messie a pu paraître dans ce monde. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous sommes sauvés. Rappelez-vous que la Bible dit que le salut vient des Juifs. Donc quand Jésus va parler du sein d'Abraham, il va utiliser une image très forte qui va beaucoup parler aux Juifs. Abraham, cet exemple, cet homme qui n'était pas parfait mais qui a marché avec Dieu selon la foi, qui s'est tenu sur la parole de Dieu, non pas sur les circonstances, et qui a vu l'accomplissement de ses promesses parce qu'il a su croire jusqu'à temps ne voir. Ça, c'est l'exemple d'Abraham. Donc évidemment ici, on voit que le sein d'Abraham, c'est l'image du cœur des croyants, de ceux qui croient, de ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Et évidemment, ça sera nous, cette image de ceux qui croient. Quand il meurt, un ange vient. Et à cette époque, avant la résurrection de Jésus, il y avait cet aspect du sein d'Abraham. Là, je vais m'expliquer. On voit que le séjour des morts, puisque les deux vont descendre dans le séjour des morts, celui qui croit et celui qui ne croit pas. Le riche est l'image de celui qui se pense riche pour lui-même et qui n'est pas riche selon Dieu, c'est-à-dire qui n'est pas né de nouveau. Qui ne marche pas avec Dieu, qui marche selon sa volonté, selon tout ce qu'il veut sur cette terre. Le pauvre est l'image du croyant de l'Ancien Testament. Et le pauvre descend dans le sein d'Abraham. Le riche selon lui, c'est-à-dire qui est pauvre selon Dieu, Il y aurait beaucoup de choses à dire sur être riche selon Dieu ou être pauvre selon Dieu. On ne parle pas de finances ici. On parle de richesses éternelles. Selon les principes divins. Et en fait, on s'aperçoit que celui qui n'est pas riche selon Dieu, c'est-à-dire qui ne vit pas selon Dieu, descend dans un endroit de tourment. Un endroit que les chrétiens appellent souvent l'enfer. Vous savez d'où vient ce mot enfer? Ça vient du latin. Et en fait, ça veut dire le feu. Et ici, quand nous lisons ce que le riche, c'est-à-dire celui qui va en enfer, subit, il est en proie au tourment. Reviens au verset précédent, s'il te plaît. Reviens au verset précédent, merci. Ici, il est dit qu'il était en proie au tourment. Verset 23. Ensuite, lisons verset 24. Et dit, envoie Lazare pour qu'il tremble, hein, car je souffre, regardez bien, verset 24. Je souffre cruellement dans quoi? Dans cette flamme. La Bible nous parle clairement. Il y a d'autres passages encore, il y a d'autres versets à la suite qui nous parlent de tourment. Quelqu'un, qu'il soit né dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, à partir du moment où quelqu'un n'est pas né de nouveau dans le Nouveau Testament ou ne marche pas selon les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament, à chaque fois que quelqu'un est mort physiquement sans marcher avec Dieu selon l'alliance que Dieu avait faite, les alliances qu'il avait faites avec les hommes depuis le début de l'histoire de l'humanité, cette personne descend au centre de la terre dans un lieu de tourment, dans le feu. C'est pour ça qu'on a appelé ça l'enfer, du mot latin qui justement veut dire le feu. Donc quand vous parlez de l'enfer, vous dites ni plus ni moins le feu. Ça veut dire l'endroit de tourment qui est dans le séjour des morts, où les gens sans Dieu descendent. Un jour, à la fin des temps, il y aura le jour du jugement de Dieu. Les gens ressortiront de l'enfer. C'est un endroit qui est contrôlé par Dieu. Parce que là aussi, il y a beaucoup de choses que les gens disent d'extrêmement bizarres. Ils pensent que l'enfer est contrôlé par Satan. Je ne sais pas où vous avez un seul verset qui soutient ça. Trouvez-moi un verset où il est dit que c'est Satan qui a les clés de l'enfer. Un seul verset. S'il avait les clés de l'enfer, s'il avait les clés de l'abîme, vous ne croyez pas qu'il libérerait ses copains du Tartaros? Non, ils ont été capturés, ces démons, ces anges déchus. Ils sont en prison jusqu'au jour où ils vont être jugés. La Bible nous parle que nous jugerons les anges déchus. Il y a le jour du jugement qui va venir. C'est une réalité. Vous savez, moi, des fois, je passe dans certains pays, on prêche un évangile où on dit, chut, il ne faut plus parler aux gens qui sont pécheurs. Il ne faut pas leur dire le mot enfer, ils vont rigoler. Faut prêcher un évangile, Dieu t'aime. Il t'aime tel que tu es. Viens chanter, danser les petites chansons de Dieu avec nous. Et on a des gens comme ça qui s'intéressent, des adhérents à l'évangile. Non, il y a un message qui est clair dans la parole de Dieu. Et ce n'est pas un message pour les vieux. C'est un message qui est là et qui est un message jusqu'à temps que Jésus vienne et règne. L'homme est pécheur. Il doit se repentir de ses péchés. Il doit accepter Jésus comme son sauveur personnel. On n'est pas en train de prêcher l'adhésion à une église. On n'est pas en train de faire des adhérents avec des cartes de membres. On est en train de prêcher la vie de Jésus-Christ, la vie éternelle. Contre la mort éternelle. L'enfer est une réalité. Chaque personne que l'on enterre, qui n'a pas Jésus comme son sauveur personnel, elle va dans cet endroit de tourment où elle est tourmentée cruellement. Parce que Dieu a réservé un jugement pour ceux qui ne veulent pas de lui. Parce que Dieu a jugé le péché. Quelqu'un qui meurt physiquement, sans avoir reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel, c'est quelqu'un qui descend en enfer, à l'intérieur, au centre de la terre. Et ce n'est pas le diable qui a les clés. C'est Dieu qui a prévu cette prison d'esprit à la fois humain et à la fois d'ange déchu capturé. Il y a un jour d'ailleurs où le diable ira dans le Tartaros, c'est marqué à la fin de l'Apocalypse. Lisez la fin de l'Apocalypse. Quand Jésus va venir établir son règne de 1000 ans, la Bible nous dit que le diable sera enchaîné pour 1000 ans. Si le diable avait les clés, il dirait, vous allez me prendre, c'est moi qui ai les clés. Vous voyez bien que ça, c'est des superstitions. C'est ancré dans la tête des gens, des chrétiens. C'est grave, ça. Le diable n'a aucun pouvoir sur cet endroit-là. Dieu a dû créer l'enfer et le Tartaros. Pourquoi ? Ni plus ni moins. Parce qu'il devait. Quel est le premier homme qui est mort ? Abel. Lisez le début de la Genèse. C'est intéressant, la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Abel, c'était qui ? C'était le fils d'Adam et Ève.
Abel yari umuhungu wa Adam na Eva.
Vous savez qu'il a été tué par qui ?
Murazi ko yishwe nande ?
Son frère Cain.
Nuwo bavukana gahine.
Le premier homme
wa mbere
qui est mort.
Yapfuye.
Physiquement,
mu buryo bw'umubiri,
ça a été Abel.
Yari Abel.
Vous n'avez jamais pensé à ça, hein?
Ivyo ngira ntimuragera mu byumvira sinzi.
Il est parti où, Abel?
None Abel yagiye he?
Dans le séjour des morts.
Yagiye mu aho hantu aho
bapfuye. Il n'a pas été en enfer.
Ntiyagiye mu muriro?
Il n'a pas été en enfer.
Ntiyagiye mu muriro.
Il y avait une autre partie à cette époque.
Hari kindi gice ico gihe.
Qu'on appelle le sein d'Abraham.
Bita igikiriza cha Abraham.
Et Dieu a dû créer des endroits pour les esprits humains. Un esprit humain, quand il est mort, ne se balade pas. Vous savez, dans le monde entier, les religions sataniques, les adorateurs d'idoles rendent des cultes à qui ? Étudiez aux morts. Cherchez partout, ici, sur le continent. Partout. Vous allez en Asie, vous allez en Europe, il y a bien des siècles avant le christianisme. C'était des coutumes de tous les peuples. Rendre des cultes aux morts. Parce que le diable a répandu cet immense mensonge que les morts peuvent se promener partout. Ce n'est pas la parole de Dieu qui dit ça. Dieu contrôle chaque être humain qui quitte son corps de la terre. Dieu nous a donné la capacité à procréer. Quand un homme et une femme ont une relation sexuelle, et qu'il y a procréation, naissance. Déjà dans le ventre de la maman, Dieu a donné cette loi spirituelle où il y a la création d'un esprit et d'une âme d'un être humain qui vient dans le ventre de la maman. Toi, tu n'es pas une maman, mais on fera comme si tu étais une maman. Tu viens dans le ventre de la
maman.
Mesdames, quand vous êtes enceinte, vous expérimentez quelque chose d'incroyable. Vous
n'y
avez jamais pensé, mesdames. Mais sache une chose. Il y a un moment où Dieu amène un esprit et une âme dans le bébé que tu as porté. Et tu vas donner naissance à un être humain qui sera autonome. Qui sera autonome sur cette terre. Esprit,
âme
et corps. Depuis Adam et Ève, c'est le cas. Depuis Adam et Ève. Vous avez vu, mesdames, vous avez quelque chose que nous ne pouvons pas faire, nous les messieurs. Réfléchissez au monde invisible. J'essaye de vous donner l'intelligence de la parole. Parce que beaucoup de gens ne pensent même pas à tout cela. Mais vous savez, les puissances des ténèbres savent très bien tout ça. Et quand cet être humain vient dans ce monde, il y a un jour où il va quitter ce monde. Parce que nous ne sommes pas éternels, notre corps a hérité de la malédiction de la chute. Ceux qui reçoivent Jésus comme sauveur personnel, ils partent au troisième ciel, nous l'avons vu. Philippiens 1:23 nous le dit, par exemple. Philippiens 1:23. Et 2 Corinthiens 5 nous en parle. Si nous sommes nés de nouveau, notre corps reste ici et automatiquement nous allons au troisième ciel auprès du Seigneur. Donc notre esprit, notre âme sera au troisième ciel jusqu'au moment où Jésus viendra chercher son église, où là il y aura la première phase de la première résurrection d'entre les morts. Mais Dieu contrôle tout ça. Dieu contrôle tous ceux qui sont au ciel. Et c'est pareil, personne ne ressort du troisième ciel. Un jour, j'ai écouté une grande bêtise. J'essaie de casser des mythes, des choses que les gens croient. Il y avait un pasteur inéduqué un jour qui était en train de donner un faux témoignage évident. Il disait que pendant la nuit, il a ouvert les yeux et il a vu apparaître un grand pasteur. Je nommerai pas son nom ici, mais c'était quelqu'un qui était très connu et qui est mort prématurément, un homme de Dieu. Et il lui a dit qu'il lui était apparu, qu'il était venu dans sa chambre et qu'il lui avait parlé. Ça, c'est du mensonge. Du mensonge total. À partir du moment où nous sommes au troisième ciel, nous restons au troisième ciel. La seule façon dont nous sortirons du troisième ciel, c'est le jour où Jésus reviendra chercher son église. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, c'est-à-dire ceux qui sont au troisième ciel redescendront et revêtiront un corps incorruptible. C'est ce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 et suivant. Mais les autres qui sont en enfer, ils
ne
viennent pas vous chatouiller les pieds pendant la nuit. Les esprits humains de ceux qui sont en enfer sont en prison jusqu'à temps que Dieu ouvre la porte de l'enfer. Il va les faire ressusciter pour la deuxième résurrection. Et là, ils seront revêtus du corps de la honte. Ils passeront devant le grand trône blanc du jugement de Dieu. Et là, des livres seront ouverts.
Et
la Bible nous dit clairement qu'ils seront jugés selon leurs œuvres. Si vous
n'êtes
pas convaincu, lisez l'Apocalypse, la fin de l'Apocalypse. C'est marqué très clairement. C'est Dieu, selon l'ordre de Dieu, qui ouvrira l'enfer. Qui fera sortir tous ceux qui sont en enfer.
Il
les ressuscitera. Pour la deuxième résurrection. Non pas pour avoir un corps qui va pouvoir vivre dans sa présence. Mais ils vont avoir un corps devant lequel il y aura un jugement. Et ils seront amenés dans la seconde mort. Et la Bible appelle ça l'étang de feu. L'étang de feu, la seconde mort. La mort éternelle. Mais en attendant, nous parlons du monde invisible. Chaque personne qui meurt physiquement, si elle est née de nouveau, elle part au troisième ciel et pour l'instant elle reste au troisième ciel. Chaque personne qui meurt sans avoir reçu Jésus comme son sauveur personnel descend au centre de la terre en enfer, dans ce lieu de tourment. C'est une prison. C'est une prison. Regardez d'ailleurs, on va lire Apocalypse 9. J'espère que quelqu'un comprend quelque chose aujourd'hui. Certains, vous clignez des yeux, vous faites. Et oui, il faut que vous sachiez ces choses. C'est triste, mais l'ignorance amène les chrétiens à dire des choses ou à croire des choses. Apocalypse chapitre 9. Je vais vous montrer quelque chose. Dans l'Apocalypse, si vous lisez un petit peu comment l'Apocalypse est faite, vous allez découvrir des choses très simples. Vous verrez par exemple que dans le chapitre 1, Jésus se révèle d'une façon puissante à Jean. Jean va avoir une vision de Jésus glorifié. Et Jésus va donner au chapitre 2 et au chapitre 3 un message aux sept églises. Ça, c'est une première vision. Ensuite, Jean va recevoir une deuxième vision. Chapitre 4, c'est là où il voit le ciel. Nous avons fait une étude là-dessus. Vision de la gloire de Dieu. Chapitre 5, ben, c'est très simple. C'est en fait le déclenchement de la tribulation. Là où Dieu va envoyer pendant 7 ans ses jugements sur la terre. Et c'est Dieu qui contrôle cette période. Il l'a prophétisé avec le prophète Daniel. Jésus va parler de ça dans Matthieu 24. Et nous avons beaucoup de passages qui nous en parlent. De ce temps où Dieu va venir juger la terre. C'est pour ça que l'Église sera déjà partie d'ailleurs. Dieu ne peut pas envoyer ses jugements sur la terre si ses enfants sont là. C'est l'image que la Pâque nous a donnée d'ailleurs aussi. Tous ceux qui avaient accepter de faire le sacrifice de l'agneau pascal dans Exode chapitre 12. J'essaie de vous faire comprendre des grandes lignes prophétiques de la parole. La Pâque, qui veut dire littéralement passer au-dessus, eh bien, en fait, tous les Israélites qui avaient obéi et qui avaient sacrifié l'agneau pascal n'ont pas subi le jugement que les Égyptiens ont subi. C'est une image pour nous. Nous ne subirons absolument aucun jugement de Dieu. Dieu ne peut pas juger ses enfants, puisque nous sommes au bénéfice de celui qui a été jugé pour nos péchés. Donc il n'y a plus de condamnation sur toi. Ton jugement est passé. Dieu ne peut pas te laisser pendant les 7 années de tribulation si tu es né de nouveau. C'est pour ça que Jésus viendra chercher son église. Donc quand vous lisez chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, eh bien vous verrez que Dieu envoie ses jugements. avec différentes coupes de la colère de Dieu, les trompettes, etc., etc. Les sceaux qui sont ouverts, les ce qui est scellé. Et chapitre 9. Très intéressant. Chapitre 9. Le cinquième ange sonna de la trompette. Ça, c'est pendant la tribulation. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée.
Umumarayika wa gatanu aravuza, mbona inyenyeri itibukiye mu isi ivuye ku ijuru, ihabwa urufunguzo rw'urusumanyenzi rw'ikuzimu.
Et il est dit, elle ouvrit le puits de l'abîme. Le puits de quoi? De l'abîme, abyssos. Tiens, c'est exactement le même mot que nous retrouvons ici.
Ngo yugurura urusumanyenzi rw'ikuzimu. Ukuzimu ni abyssos, hamwe twakoresha kare.
Abyssos, cette expression globale, prison des esprits. À la fois où il y a le Tartaros et à la fois où il y a le séjour des morts. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, un grand feu, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du
puits.
Donc, il va y avoir des sortes de créatures qui vont sortir. Et on n'a pas beaucoup de renseignements sur ces créatures, il faut le dire. Donc, regardez bien d'abord qu'au verset 1, c'est une initiative divine, parce que c'est un ange qui vient faire ça. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas le diable. C'est un ange qui vient ouvrir le puits de la Bible. Et il est dit, verset 3, de la fumée des sauterelles sortir de la terre, tiens, donc de la terre encore, il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions, etc., etc. Verset 4, il leur fut dit de ne pas toucher à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non pas de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elle causait était comme le tourment causé par un scorpion qui pique lorsqu'il pique un homme.
Ariko zihabwa kubasesereza amezi atanu kandi kubababaza kwazo kumeze nk'ukwa sikorpio iyo iri y'umuntu.
En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles, regardez bien, ces sauterelles, ces créatures qui sont sorties de l'abîme, ressemblaient à des chevaux équipés pour le combat. Ils avaient sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages humains. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme celles des lions. Elles avaient des poitrails comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars de plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de nuire aux hommes pendant 5 mois. Elles, c'est-à-dire ces espèces d'animaux qui ressemblaient aux sauterelles, ont sur elles comme roi, regardez bien, l'ange de l'abîme, dont le nom hébreu est Abaddon et en grec qui se nomme Apollyon. Le premier malheur est passé, voici encore que 2 malheurs viennent encore après. Est-ce que tu peux lire le verset 10 et le verset 11 s'il te plaît?
Ngo kandi zari zifise imirizo nk'iya sikorpio n'imboyi kandi mu mirizo yazo niho harimo ubushobozi bwo gusesereza abantu amezi atanu zifise umwami wazo niwe mumarayika w'ikuzimu mu giheburayo yitwa Abadoni mu kigiriki yitwa Apolouni.
Donc ici on parle de l'abîme.
A tuvuga rero ni kuzimu.
On est dans le temps de la tribulation, où Dieu envoie des jugements, où son Église n'est plus là.
Mais
pendant la tribulation, il y a des gens qui vont se convertir. Rappelez-vous que quand l'enlèvement de l'Église va venir,
ça va être
soudain. Et il y a des gens qui vont dire, mais ces chrétiens, mon frère m'avait parlé de Jésus, mais il avait raison, je me suis foutu de lui. Des gens qui auront entendu notre témoignage, qui quand il va y avoir l'enlèvement de l'Église, ça va être une preuve irréfutable de ce que nous avons prêché. L'événement sera tellement mondial que personne ne pourra le contester. Mais ceux qui vont donner leur vie à Jésus à ce moment-là, pendant la tribulation, vont le faire au prix de persécutions horribles. Parce que le diable va les persécuter terriblement. Là, ici, nous voyons qu'il y a d'abord sur cet abîme un roi, quelqu'un qui domine cet abîme, qui apparemment est ordonné par Dieu, donc contrôlé par Dieu, sous l'autorité de Dieu. Et cet ange, ce roi qui domine, s'appelle Abaddon ou Apollyon. Ça veut dire littéralement, en hébreu et en grec, ça veut dire destructeur. Vous savez, Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu aussi est un Dieu de jugement. Il exercera ses jugements. Nous sommes dans la grâce. Les hommes naissent et meurent et naissent et meurent et naissent et meurent. Dieu leur dit, je t'aime, j'ai envoyé mon fils pour mourir pour toi sur la croix. Il y a des gens qui se repentent et qui ont leur destinée éternelle de transformer, de changer. D'autres qui refusent. Et un jour, ils seront jugés. Les démons qui ont péché contre Dieu seront jugés. Mais ici, on voit que ce Abaddon ou Apollyon, c'est un roi qui domine et qui est sous l'autorité divine. L'abîme. Qui l'ouvrira selon un ordre divin. Et preuve en est aussi que ces créatures qui ressemblent à des sauterelles. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment certains films fantastiques un peu surréalistes, il faut que vous sachiez que certaines créatures que vous voyez qui ont été imaginées par certains dessinateurs sont ni plus ni moins inspirées de ce texte de l'Apocalypse. Certains jeunes, vous voyez ces trucs-là. Et en fait, ici on voit clairement qu'il y a d'ailleurs des créatures que la Bible décrit ressemblant à des sauterelles. Ce sont des créatures spirituelles qui ressemblent, Jean les voit dans le monde de l'esprit, à comme une sorte de sauterelle avec des cheveux, toutes sortes de trucs, là, les cuirasses, etc. C'est la seule façon dont il a pu nous décrire ça. Mais nous n'avons pas plus de renseignements sur ces créatures. Nous ne savons pas plus. C'est le seul passage de la Bible qui nous montre que Dieu contrôle l'abîme, que sur cet abîme, il y a un roi qui s'appelle Destructeur, à qui Dieu donnera un ordre d'ouvrir pour faire sortir d'autres créatures qu'on ne connaît pas, qui exerceront les jugements de Dieu. Remarquez dans ce passage d'Apocalypse 9, il est dit à ces créatures là qui ressemblent à des sauterelles, si on peut regarder un peu plus haut, de toucher aux hommes sauf à ceux qui ont la marque de Dieu sur leur front. Regardez un peu dans les textes un peu plus haut. Et il est dit clairement, qu'ils ont ordre de toucher à tous ceux qui n'ont pas la marque. La marque sur eux de Dieu. Et la Bible est claire là-dessus. Regardez verset 4. Mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Donc on voit très bien que cet abîme est contrôlé par Dieu. Que Dieu dira à cet ange destructeur, ouvre. Qu'il y aura ces créatures dont on ne sait peu de choses, je vous le rappelle, si ce n'est la description que nous avons ici, qui sortiront de l'abîme. Ce sont des créatures qui tourmentent les gens, c'est tout ce que nous le savons. Et qui tourmentent les gens qui sont en enfer. Et ça, c'est Dieu qui exerce son jugement. Il commence par là. Quelqu'un qui meurt sans Jésus, c'est un drame. Moi, quand on me dit quelqu'un est mort, la première chose que je pose comme question, je dis, est-ce que cette personne était sauvée? Parce que c'est ce qui m'importe. Si je sais que cette personne était née de nouveau, même si elle est partie prématurément, tristement, parce que Dieu nous veut avec une longue vie sur la terre, je me dis, au moins elle est auprès du Seigneur dans la gloire. Par contre, si cette personne est partie sans le Seigneur, elle est là tourmentée en enfer. C'est le message que nous avons à donner, frères et sœurs. La prochaine fois, je vous montrerai ce qu'il en est du Saint Abraham à l'époque, avant la venue de Jésus. Je vous montrerai comment Jésus est descendu dans cet endroit. Je vous expliquerai Éphésiens 4, versets 7 et 8, quand il est dit « Il a libéré les captifs ». Et je vous montrerai l'état du Saint Abraham depuis la résurrection de Jésus. Que tout le monde ferme ses yeux. Nous allons prier pour clôturer. Père, merci pour ta parole. Merci pour la connaissance de ta parole. Merci pour ta puissance. Merci pour la révélation, Seigneur, du monde invisible. Merci, Seigneur, parce que tu aimes l'homme. Tu n'as pas créé l'homme pour qu'il aille en enfer, mais tu as dû créer l'enfer. Parce que, Seigneur, tu voulais que les hommes qui partaient sans te connaître soient, Seigneur, dans une prison des esprits. Nous te remercions, Seigneur, pour la révélation de ta parole. Mais surtout, Seigneur, nous te remercions pour le message de salut que tu as pour les êtres humains. Ta grâce, ton amour, Seigneur. Faveur imméritée, don qui vient du ciel. Merci de nous l'avoir donné, Seigneur. Merci de nous avoir donné le message qui, quand il est cru et qu'il est pratiqué, change la destinée éternelle des êtres humains. Merci pour cela, Seigneur. C'est une immense responsabilité que tu as mise sur nous, Seigneur, de partager ton évangile. Et Père, je prie pour que ce peuple, que tous ceux qui sont nés de nouveau, puissent de plus en plus prendre conscience de cette responsabilité du message que tu nous as laissé. Alors que tout le monde a ses yeux fermés, y a-t-il quelqu'un ici qui comprend aujourd'hui? Il faut qu'il donne sa vie à Jésus. Jésus vous aime. Il s'est donné pour vous. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est là où tu iras en enfer, au centre de la terre, quand tu vas mourir physiquement. C'est là où tu vas te retrouver. Tu vas être là, dans les tourments, dans le feu, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Et c'est une opportunité ce matin. Tu es peut-être venu ici et tu n'es pas capable de dire, moi voilà, il y a un jour où j'étais convaincu de mon péché, je me suis repenti, je me suis détourné de mon péché, j'ai cru en Jésus.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.